Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue ?
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour. Camus. C'est bien de commencer par la voix de Camus.
Oui, discours de réception de son prix Nobel, qui le fait passer de la solitude dans l'ombre à la solitude dans la lumière. Pourquoi Albert Camus, Hubert Védrine ? C'est un livre assez particulier, parce que vous vous racontez beaucoup, tout en racontant la place qu'a eu...
moi-même.
Oui, je sais. Commencez pas à minorer ce que je raconte, parce que c'est votre spécialité. D'accord. Mais jamais Hubert Védrine s'est livré autant que ça en parlant de son admiration et peut-être même de son amitié pour un homme qu'il n'a pas connu, Albert Camus.
C'est plutôt une passion qu'une amitié. C'est une passion adolescente. J'ai eu une passion pour Albert Camus que j'ai découvert pas tellement longtemps avant sa mort, mais il a eu le Nobel. Mes parents m'avaient offert un disque formidable où il y avait des textes de Camus, lus par Camus ou par Reggiani. Il y avait Maria Cazares, il y avait Alain Cuny. Et donc, je connaissais ce disque par cœur. J'étais fou de Camus. Pour la musique, c'est pas la philosophie de Camus qui vient après, vous voyez. C'est Des Noces, L'été, L'étranger, c'est ces textes-là. Donc, j'avais une sorte d'amour passionné. Je connaissais 30 à 40 pages de Camus par cœur. Et le temps a passé, j'ai passé la moitié de ma vie au pouvoir, ou autour de ça.
Vous avez tout oublié ou pas ?
Non, je commence à cheminer.
Vous connaissez encore du Camus par cœur ?
Oui, oui. Enfin, quand la sonnerie a retenti, que la porte s'est ouverte, je connais notamment La fin de l'étranger, oui, des choses comme ça. Ou bien dans Noces et l'été, par exemple, Les Amandiers, Une nuit froide et pure de février, le moment où les amandiers fleurissent. Bon. Mais je veux dire par là qu'après j'ai eu la vie remplie par mille choses, et j'ai voulu ces dernières années revenir à Camus pour voir ce que ça voulait dire pour moi maintenant. Alors évidemment, j'avais eu des conversations par les hasards heureux de la vie avec René Char, avec Jean Daniel, donc c'était des cailloux blancs quand même sur le chemin. Mais là, je suis revenu ces dernières années et j'ai tout relu de Camus et sur Camus.
C'est
ça que j'essaie de raconter,
c'est
ce retour. Quoi.
Et vous le racontez bien parce que auriez-vous été fan d'Elvis Presley, de Janis Joplin ou de tout autre intellectuel, on se retrouve dans cette passion pour un écrivain qui vous fait cheminer. Alors il y a les disques, il y a les lectures de jeunesse, ensuite les lectures du Lagarde et Michard, donc vous élargissez évidemment le prisme littéraire. Et puis ensuite vous allez rencontrer ses amis, ceux qui l'ont connu, vous allez aller à Lourmarin, sur sa tombe, enfin quelques-uns et pas des moindres, il y a Jean Daniel, il y a Jérôme Monod, il y a René Char, il y a la fille d'Albert Camus. Là aussi, il y a tout un chemin qui relève de la, on dirait aujourd'hui, la fanatitude. Et c'est ça qui est touchant dans ce livre.
Parce qu'on n'attendait pas de moi.
Oui.
Mais je suis pas un fan au sens de fanatique. D'ailleurs, c'est un rempart contre les fanatismes.
Enfin, on va y venir.
C'est ça l'idée. On va y venir. C'est vrai que j'ai été au cimetière de Lourmarin, mais longtemps après, j'avais eu l'occasion, invité par Jérôme Monod, qui donc avait une maison à Lourmarin. C'est le père de Jérôme Monod qui avait vendu finalement à Albert Camus la maison qu'il a eue, pas tellement longtemps, à Lourmarin. Il avait cherché une maison dans le Luberon pendant des années et des années. Aidé par René Char, il avait atterri là. Mais je n'étais au cimetière que quelques années après avec Joschka Fischer, mon collègue et ami allemand de l'époque, le leader des Verts allemands, qui était fasciné par Camus comme grande figure anti-totalitaire, en résumé. On a été sur cette tombe émouvante et modeste à Lourmarin.
Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent le Camus qu'on étudie au collège et au lycée, le Camus de l'étranger, le Camus de la peste, récemment adapté pour la télévision par Georges-Marc Benamou, que vous connaissez également et qui est aussi un camusien, comme on dit. Pour résumer pour nos auditeurs, quel est l'apport à la pensée contemporaine d'Albert Camus ? Qu'est-ce qu'il a dit d'important ?
Alors, c'est un exercice risqué. Je tente l'exercice dans le dernier chapitre, dialogue uchronique. J'essaie de deviner, de comprendre ce que serait devenu Camus s'il avait vécu plus longtemps.
Mais en son temps, d'abord en son temps, avant l'héritage d'aujourd'hui.
Le choc pour moi au début, il est quasiment poétique. Poétique et sensuel.
Ouais.
Noces, l'été, je suis un jeune homme d'avant 68. Vous voyez, Noces, l'été, l'étranger.
Et vous êtes allé vous balader en Algérie.
Et donc j'étais à Tipaza dès que j'ai eu l'argent de poche pour me payer l'avion pour Alger. J'étais à Tipaza. Mais l'élément, la réponse politique à votre question, elle est concentrée dans l'affrontement Sartre-Camus, en fait. Camus a 10 années à Paris. Il a un premier roman, L'étranger, qui a un succès impressionnant. Il arrive à Paris, devient une gloire jeune. C'est un homme qui est beau, il ressemble à un acteur italien, il a un succès fou. Donc il y a 10 années jusqu'à la rupture avec Sartre. Au début, ils sont assez copains, ils sont à des soirées ensemble, ils dansent ensemble. Enfin, c'est des groupes qui se connaissent bien. Il est assez ami avec Simone de Beauvoir, etc. Mais quand il dit dans L'homme révolté que finalement, même quand la révolte est justifiée, elle ne peut pas aller jusqu'à justifier le meurtre, si on résume, ni individuel ni collectif, donc le stalinisme, on est encore sous Staline. Et Sartre et les progressistes, à travers les temps modernes, vont étrier Camus. Ils vont le démolir, le canceller, on dirait, aujourd'hui, si on compare.
C'est abominable la façon dont Sartre fait flinguer son ami par son lieutenant, Janson, dans une revue où tout sera bon pour flinguer Camus. Oui. Le mépris de classe, le mépris pour le pseudo-philosophe. Ensuite, c'est Sartre qui y va. Et Camus, et peut-être un peu Beauvoir, invente la façon dont la gauche intellectuelle a pu chasser en meute ensuite.
Oui, la gauche progressiste de l'époque. Et alors, Sartre est un immense écrivain. Les mots, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et c'est un vrai penseur philosophe sur la liberté. Il y a plein de choses. Il n'empêche que...
C'est bien
dans
trompé.
Les circonstances, il s'est vraiment complètement trompé. Ils se sont conduits de façon immonde avec Camus. Camus est défendu à l'époque par René Char, par Romain Gary, par Jean Guiton. Jean Guiton, c'est un échange à propos du livre quand Jean Guiton était dans les camps de prisonniers.
Jean Guiton, l'intellectuel catholique.
Par Jean Guéhenno. Jean Guéhenno, mais c'est à peu près tout à l'époque. Donc j'y vois une sorte de préfiguration des phénomènes d'exécution en meute, de lynchage politico-médiatique dont on voit malheureusement la...
Je vais donner envie de lire à nos auditeurs. Il y a un passage qui est quand même très drôle parce que vous racontez. Je reviens à ça et puis ensuite on parlera de questions plus contemporaines avec la pensée de Camus. Mais vous racontez que vous donnez des cours dans une prépa Sciences Po. Et voilà ce que vous dites. En 1965, après le baccalauréat, je suis en année préparatoire à Sciences Po Paris. Pour gagner un peu d'argent de poche, je donne quelques cours d'histoire géo en terminale à Paul Esfi, collège privé qui accueille des jeunes filles ayant déjà raté l'examen une ou deux fois. Certaines relèvent leur jupe haut sur leurs cuisses pour observer l'effet produit sur le professeur de leur âge que je suis. Hubert Védrine, voyons.
Oui.
C'est du souvenir, ça.
Oui. C'est une petite part, une minuscule anecdote.
C'est une minuscule anecdote, mais c'est ça qui rend votre bouquin si attachant, parce que vous racontez une partie de votre vie, cet attachement sensuel sur les pas d'Albert Camus et sur les pas de cette Algérie. Et puis vous nous emmenez à l'époque contemporaine où vous posez cette question. Camus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit du monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Parce que c'est risqué, alors, évidemment.
Oui, c'est risqué, c'est contestable, ça sera discuté. Mais je l'imagine, je le raconte dans le livre, devenu une sorte d'ermite à Lourmarin. Recevant, alors tout le monde survit dans mon livre, longtemps, même avant les techniques californiennes. Donc je vois bien discuter avec George Orwell, Simon Less, Jean Daniel encore, mais un petit groupe, l'ermite de Lourmarin a reçu, a parlé.
Mais il leur dit quoi? Qu'est-ce qu'il leur dit sur Gaza ou sur l'Ukraine? Ça c'est difficile à imaginer, mais qu'est-ce qu'il peut leur dire?
C'est difficile à imaginer, mais compte tenu des déchirements de Camus très compréhensibles à propos de l'Algérie, vous savez, entre l'Algérie, la justice, ma mère, etc., quand il avait une peur bleue que sa mère prenne un tramway et soit tuée par un explosif déposé par des terroristes à l'époque ou des combattants nationalistes, selon les termes que l'on adopte, ça l'a vacciné contre le manichéisme.
À la révolution algérienne et à l'indépendance, il dit « si ça doit tuer ma mère, je ne suis pas pour ». Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui?
Donc, il n'est jamais manichéen.
Non.
Non, mais c'est une réponse à votre question. Je crois qu'il ne serait jamais manichéen sur rien. Parce
mais
que
il
l'expérience
reste
fondatrice fait que il pouvait pas avoir des positions aussi schématiques que Sartre, aussi brillant soit-il, Sartre.
Est-ce qu'il aurait soutenu un engagement militaire ou le renforcement de l'engagement militaire en Ukraine?
Ça, j'en sais rien, parce qu'il est tellement détaché de l'engagement. D'ailleurs, il fait des déclarations contre l'engagement. Il se veut jamais écrivain ou intellectuel engagé. Il est contre ça. Il dit, mais on est embarqué malgré tout. On n'a pas le choix, on est embarqué, mais pas engagé au sens sartrien. Et donc je crois qu'il aurait gardé une attitude comme ça de réserve, peut-être avec des commentaires moraux, mais pas au sens moraliste, gnangnang. D'ailleurs, il se défend, il ne veut pas qu'on l'assimile au gargarisme moderne. C'est sa façon de dénoncer le moraliste. Donc c'est pas un moraliste simplet. Tout ce qu'avaient dit les sartriens pour le ridiculiser, auteur pour classe terminale, ce qui est d'ailleurs pas ridicule, mais enfin, vous voyez, tout ça n'est pas vrai.
Il n'est pas dans le « indignez-vous » d'un Stéphane Hessel, par exemple.
Non, c'est plus complexe. c'est plus ressenti, c'est plus profond. Et je reviens, il n'est pas manichéen par rapport à ça. Donc c'est pas si simple. Je sais pas ce qu'il aurait dit, il aurait été très détaché. De temps en temps, il aurait dit des choses dont je pense, alors je prends des risques, que ce serait sur la survie de la planète, en fait. Mais j'en fais pas un militant écologiste, militant de rien. Surtout pas membre d'un parti.
Mais il a très bien décrit la nature et vous pensez à ça.
Merveilleusement. C'est un des rares grands écrivains qui écrivent sur la beauté. Sur la beauté. Pas que la beauté, c'est dans les tableaux, comme aurait dit Guillaume Durand à d'autres moments. La beauté, la nature, il parle de la nature dans des termes prodigieux, sensibles, sensuels, immédiats, notamment à travers le personnage de la grand-mère cruelle, avec les poules, elle coupe le cou, la chasse, tout ça. Donc il a une relation, et d'ailleurs quand il parle quand il atterrit enfin dans son nouveau havre, qui est l'Ourmarin, dans le Luberon, il parle du Luberon, c'est une sorte d'Algérie retrouvée par rapport à ça. La lumière, les senteurs, les paysages, les bruits, tout ça.
Le président Tebboune, le président algérien, doit venir en France. On ne sait pas encore, ce sera sans doute à l'automne. Quels sont les enjeux de cette visite? C'est la seule question de politique étrangère que je vais vous poser ce matin.
Alors, ça n'a rien à voir avec Camus, hein, parce que Camus et l'Algérie, c'est une autre histoire, tout à fait avant. Et puis, il n'a pas connu même l'indépendance de l'Algérie, encore moins la suite. Donc, aujourd'hui, l'enjeu pour la France, c'est d'avoir les moins mauvais rapports possibles simultanés avec l'Algérie et avec le Maroc.
C'est compliqué.
La Tunisie, oui, ça a toujours été compliqué. Donc c'est un peu plus compliqué maintenant parce que le régime algérien est quand même très dur. On le voit dans les affaires du Proche-Orient. C'est un des régimes arabes les plus durs. Hein,
on peut choisir le Maroc. La France peut choisir le Maroc.
Non, il y a pas. Enfin, je pense que le Maroc a fait un parcours formidable dans les 20 ou 30 dernières années. C'est un pays émergent, remarquable à tout point de vue, qui a un rayonnement international à travers le sport, le cinéma, toutes les entreprises marocaines en Afrique. Beaucoup de choses. Mais la France n'a pas à choisir. Elle peut pas choisir. Elle doit avoir dans l'intérêt du pays, enfin à mon avis, puisque vous me posez la question, même si c'est sans rapport avec Camus, elle doit avoir, je répète, les moins mauvais rapports simultanés possibles. Si possible, de bons rapports simultanés. C'est très compliqué, parce que tant que le Maroc et l'Algérie n'auront pas trouvé un gentleman agreement ou un bonus vivendi à propos de l'affaire du Sahara, qui est essentiel aux yeux de l'ensemble des Marocains et qui est essentiel aux yeux de l'armée algérienne, on sera nous toujours dans cette difficulté.
Source pure et inaltérable, Camus nous protège des temps sans esprit, ceux de la morne bêtise, de l'attraction de la haine et de la vindicte, de la démesure, de la justice sommaire et expéditive, du sectarisme imbécile, du lynchage et de l'esprit de lourdeur. Camus, notre rempart, ce sont les 6 dernières lignes de ce livre qui vient de sortir chez Plon. Camus, notre rempart. Hubert Védrine, merci. D'être venu nous en parler. Je le recommande absolument vivement, même si vous ne connaissez rien à Camus et à Hubert Védrine, vous aimerez quand même. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jeudi, c'est Franz-Olivier Gisbert.